Bonjour, vous allez écouter une conférence du cycle Passeur d'Hommes, enregistrée le mardi 18 décembre. Nous écoutons le frère Olivier de Saint-Martin, dominicain, sur le thème « Être un éducateur, la famille, lieu de croissance intégrale de la personne ».
Merci de m'accueillir. Alors le thème est extrêmement riche. Être éducateur, c'est être père, être mère. Et quand on est parent, eh bien évidemment, il y a des choses, enfin, au début du mariage, je veux dire, il y a ce qu'on rêve de donner, ce qu'on veut reproduire, il y a ce qu'on n'a pas du tout envie de reproduire, que ce soit dans sa famille ou dans la famille de son mari, de son épouse. Et puis, il s'agit de découvrir qu'on a une charge d'âme. Être éducateur, c'est une âme qui nous est confiée, c'est une personne qui nous est confiée. Et paradoxalement, même si on n'est pas l'éducateur de son mari et de sa femme, je crois que la première âme qui nous est confiée lorsqu'on se marie, bah, c'est effectivement l'âme de son mari, l'âme de sa femme. Et du coup, c'est pour ça que je vais essayer de parler de l'éducation, mais peut-être d'abord de la première éducation qu'on se doit d'essayer de développer à l'intérieur de son propre couple, en se disant qu'on devient de bons éducateurs, je crois, évidemment quand on aime ses enfants, mais quand on s'aime. Hein, je crois que si les enfants ont beaucoup besoin de voir qu'on les aime, ils ont d'abord besoin de comprendre que leurs parents s'aiment. Et que le premier enjeu d'éducation, il est entre les parents. Que des enfants voient qu'une parole de vérité circule, qu'une parole vraie, une parole qui édifie, une parole qui circule librement entre les parents, ça va les aider à ce qu'une parole vraie et libre circule entre eux. Et ça va pacifier bien des choses. De voir que les parents sont toujours des alliés entre eux, ça va les aider. De voir que les parents sont capables de se demander pardon, ça va les aider. De voir que les parents sont capables de poser des gestes d'amour, ça va les aider. Hein, pour moi, la marque du plus bel amour, c'est mon grand-père un de mes grands-pères qui est mort dans les bras de ma grand-mère, elle était en train de le raser. Plus de 60 ans de mariage, elle était en train de le raser et puis s'est endormie entre ses bras. Dans l'acte le plus quotidien, l'acte de confiance aussi parce que, voilà, parfois, quand on a le rasoir entre les mains, on pourrait se dire « qu'est-ce que je tente ?» Bon. Alors, je voudrais qu'on regarde quand même un petit peu ce que c'est que le couple et la famille. Jean-Paul II disait que la famille recevait une mission. Cette mission, c'était de garder, révéler et communiquer l'amour. Et je crois que ça nous dit ce qu'est l'enjeu de l'éducation, c'est d'aider une personne à aimer. C'est d'aider une personne à découvrir sa vocation la plus profonde, qui est de connaître les réalités inférieures et qui est d'aimer les réalités supérieures. Et parler de la famille, c'est pas si facile. Vous le savez, la famille a été, continue d'être extrêmement compliquée, très attaquée. Parce que la perception même de l'être humain est attaquée. Il faudrait pouvoir prendre le temps de creuser toutes les philosophies du constructivisme, du gender. Il y a plusieurs années, enfin il y a maintenant une petite quinzaine d'années, le Conseil pontifical pour la famille avait édité un livre pour lever un certain nombre d'ambiguïtés sur les termes qui étaient utilisés pour parler de la famille. Et si on remonte un petit peu avant, à Vatican II, la question de Vatican II, la question de la famille était considérée comme une des questions les plus urgentes. Alors, Benoît XVI a beaucoup insisté en rappelant, mais dans la droite file de l'Église, que continuer à proposer aux nouvelles générations la beauté de la famille et du mariage, la correspondance de ces institutions aux exigences les plus profondes du cœur et de la dignité de la personne, devient une nécessité sociale et même économique. Et il appelait les États à mettre en œuvre des politiques qui promouvraient le caractère central et l'intégrité de la famille fondée sur le mariage. Le mariage entre un homme et une femme. Pourquoi commencer par le mariage ? Parce que le mariage, c'est la manière dont une société, qu'elle soit civile ou religieuse, reconnaît une valeur objective et non pas juste sentimentale à l'amour. Le mariage reconnu, c'est donner un cadre dans lequel la famille, l'amour, va pouvoir s'épanouir. Vous savez, comme chrétien, Jésus dit « Et voici mon commandement ». Bon, vous le savez, hein, tous ceux qui parmi vous sont mariés depuis un certain temps, et pardon pour ceux qui vivent ou qui ont vécu des blessures très profondes dans la vie conjugale, eh bien, il y a des moments, il faut choisir d'aimer. Il y a des moments, c'est facile. Il y a des moments, on se dit, comment ai-je ce bonheur que tu viennes jusqu'à moi ? On est en haut de la tour Eiffel, on voit le Mont Blanc. Et puis, on peut avoir un peu tendance à s'habituer, à ne plus vivifier l'amour. La société ne nous y aide pas, le divorce par consentement mutuel... Et peut-être un bien, c'est aussi quelque chose de terrible, parce que ça met dans la tête de chacun que le divorce est une option, que ce qu'un échange, une parole échangée a fait, une autre parole peut le défaire. Et ça, c'est dans les têtes. Et c'est très difficile, et c'est un enjeu majeur aujourd'hui, quand un couple se marie, de dire... Oui, même quand c'est difficile, et on approche là l'acquisition de la vertu, même quand c'est difficile, et surtout quand c'est difficile, je vais faire le choix d'aimer. Le choix d'aimer, le choix de me mettre au service du bonheur de l'autre. Et quand une société reconnaît le mariage, elle lui donne un cadre de stabilité à l'amour et d'épanouissement. Et c'est cela... C'est ce oui public qui permet d'assumer le fait qu'on se marie pour la vie. Et se marier pour la vie, je vais y venir, eh bien c'est assurer non seulement l'avenir de ma famille, mais l'avenir de la communauté politique. Au départ... Le premier penseur chrétien sur le mariage et la famille, c'est saint Augustin. Saint Augustin, comme beaucoup de monde à son époque, donc on est vers l'an 400, considère la famille d'abord comme étant une institution naturelle qui nous permet d'avoir une descendance légitime que l'on éduque et à qui on transmet un patrimoine. Et saint Augustin voit trois biens dans le mariage. Le premier bien, ce sont les enfants que l'on éduque pour qu'ils deviennent eux-mêmes des personnes libres et à qui on transmettra le patrimoine. Et puis, comme saint Augustin est chrétien, il rajoute que l'éducation ne vise pas seulement à faire des citoyens terrestres, mais des citoyens de la cité de Dieu. C'est-à-dire de les éduquer humainement, mais chrétiennement. Cela implique le baptême, les sacrements, et cela implique évidemment de les aider à croître dans l'acquisition des, et l'exercice des vertus théologales. C'est évident, mais ça va mieux en le disant quand même. Quelle place arrivons-nous à donner à l'éducation chrétienne dans notre éducation ? Je me souviens de parents embêtés me disant « Non mais mon enfant a conservatoire à la place d'une préparation au sacrement. Qu'est-ce qu'on choisit ?» Évidemment, vous choisissez tous le la préparation au sacrement. Mais pas toujours. Parce que, voyez-vous, le professeur de piano, le professeur ne va pas comprendre. D'abord, est-ce que vous lui avez demandé ? Et comment est-ce qu'on marque que c'est vraiment important ? Comment est-ce qu'on marque que les choses sont importantes pour nous ? On trouve toujours du temps, hein ? L'excuse de dire « j'ai pas de temps », non, ça ne fonctionne pas. On trouve toujours... Le temps qu'on n'a pas pour quelque chose, on l'a pour autre chose. Et comment est-ce qu'on manifeste ce qui est vraiment important pour nous ? Comment est-ce que des parents manifestent à leur enfant que le plus important, c'est mon mari, c'est ma femme ? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas partis tous les deux ? Je parle pour les couples mariés. N'avez-vous pas pris un temps important, un week-end, c'est pas très long, de nuit, pour dire à vos enfants, le plus important, c'est nous. Vous êtes le fruit de cet amour. Ça demande de la vertu, ça demande du courage. Comment est-ce qu'on marque le dimanche en famille ? Vous voyez, on est dans le bien des enfants vers la cité de Dieu. Comment est-ce qu'on marque le dimanche ? Est-ce qu'on est capable de se débrancher en termes de travail, en termes de... Pour dire, le dimanche est un jour qui est différent. Le dimanche, c'est pas que la messe. Enfin, c'est... Il y a la messe, hein ? Non, là, il y a le père Hervé qui... Ok, il n'est pas content. Comment est-ce qu'on marque ce dimanche ? Que véritablement, nous sommes appelés à vivre autrement. Vous savez, quand le Seigneur crée l'homme et la femme, c'est un moment extraordinaire. Il les met dans un jardin et il dit « Tu pourras goûter de tous les arbres du jardin ». Alors vous imaginez le jardin le potager, le verger le plus immense et il faut goûter de chaque. Ça prend du temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous inscrivons dans une éducation mutuelle, dans une éducation de nos enfants ? Dans un temps qui est long. Aujourd'hui, vous cherchez une réponse, vous allez sur Google, et vous avez la réponse immédiate. Est-ce que j'accepte que l'éducation de mes enfants, que l'éducation mutuelle que nous nous faisons, parce qu'on s'éduque mutuellement, on se conduit l'un l'autre vers Dieu dans le mariage, est-ce que j'accepte que cela prenne du temps, que cela ne soit pas immédiat ? Parce que une des tentations de l'immédiat, c'est que quand j'ai pas la réponse immédiate qui me plaît, je fais quoi ? Je me bute, puis je vais voir ailleurs. C'est normal. Dieu, en mettant l'homme et la femme dans le jardin de la Genèse, leur dit « Tu peux goûter de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Non, il y avait un paquet d'arbres. Ça prenait du temps. Vous connaissez, l'autre jour, j'ai parlé à des scouts de la chanson d'Hugo Frey. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier, personne ne connaissait. Donc je me suis dit, ça y est, je suis devenu vieux. Rassurez-moi, vous connaissez. C'est bon, on est de la même génération. Ça met du temps pour se construire. De la même manière, cela met du temps de faire grandir un enfant. Un couple se construit dans le temps, un couple, une famille se construit dans le temps, des enfants mettent du temps à grandir. Premier bien du mariage, les enfants, pour saint Augustin. Deuxième bien du mariage, ce sont des biens, ce sont des choses qui sont bonnes et qu'il faut promouvoir et cultiver. Le deuxième bien du mariage, c'est la fidélité. Et ça aussi, qu'est-ce que c'est important pour des enfants ? La fidélité, c'est quoi ? C'est la confiance. Avoir confiance l'un dans l'autre. C'est facile au début. Et puis, petit à petit, mais même quand un enfant vous a raconté des craques, pas vos enfants, mais moi j'étais un enfant plutôt turbulent. Et mes parents ont découvert au fur et à mesure de mes turbulences ce que j'avais pu raconter qui n'était pas tout à fait, voire très éloigné de la vérité. Mais avec fidélité, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont maintenu leur confiance. De la même manière que, visiblement, ils se faisaient confiance l'un à l'autre. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire que, très concrètement, dans le mariage, on est toujours des alliés l'un pour l'autre. Vous voyez, on peut se disputer. C'est bon signe, ça veut dire qu'on vit encore. Mais jamais devant les autres. On peut ne pas être d'accord, mais toujours avec respect. Est-ce qu'on a toujours confiance que l'autre peut grandir ? Est-ce qu'on a toujours confiance que l'autre est fait pour Dieu ? Que l'autre peut me conduire au bonheur ? C'est des trucs extrêmement basiques hein, que je vous dis. Mais en même temps, c'est le fondement même de toute éducation. Parce qu'un enfant qui voit que ses parents se font confiance, tu n'as pas besoin de me demander si tu as demandé à ton père ou à ta mère. Eh bien, si nous sommes capables d'avoir confiance, d'être vraiment des alliés en tout, alors c'est ainsi que par osmose, les choses vont se transmettre à l'enfant. Et l'enfant va apprendre à faire confiance. Parce que c'est ça qui est fondateur. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant a confiance dans ses parents, enfin qu'un enfant obéit à ses parents ? C'est parce qu'il a confiance. Enfin, le martinet, ça marche un peu. Enfin, on n'a plus le droit de donner de fessée maintenant. Moi, heureusement que mes parents avaient le droit d'en donner parce que ça m'a aidé. Mais de fait, on ne peut pas éduquer à la confiance par la terreur. On ne peut pas éduquer par la terreur. Il faut faire confiance. Il faut permettre à l'enfant de me faire confiance. Comment l'enfant me fait confiance ? C'est en voyant que j'ai avec mon mari, avec ma femme, une relation de confiance, qu'on est des alliés, qu'on ne met jamais en doute la parole de l'autre. Est-ce qu'on a confiance dans nos familles ? Il y a une confiance qui fait qu'il n'y a rien sous clé. On n'a pas de vie privée. Je veux dire, on n'a pas de vie privée, on n'a pas de vie parallèle. Hein ? Vous avez une vie privée. Je veux dire, entre époux, on n'a pas de vie privée. La fidélité, donc, c'est être des alliés en permanence. Et puis, la dernière chose, dit saint Augustin, c'est que la famille, le dernier bien, c'est le sacrement. Pour saint Augustin, le sacrement, c'est que la famille nous dit quelque chose des noces du Christ et de l'Église. Et ça, c'est un bien. La théologie ultérieure va développer tout cela. Elle va le développer en disant que la famille n'est pas juste l'image un peu lointaine des noces du Christ et de l'Église, mais que la famille, elle est, depuis le départ, depuis ce que Dieu a voulu créer, elle doit être un reflet du mystère de Dieu. Ça, c'est compliqué. Non, parce que quand un de vos enfants vous dit « Montre-moi Dieu. Papa, maman, est-ce que tu peux me dessiner Dieu ?» Il faudrait que chaque famille puisse dire « Regarde-nous, papa et moi. » Oui, mais c'est... Enfin, pardon, mais c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Si on veut comprendre la famille, Il faut qu'on regarde Dieu. C'est Jean-Paul II qui dit ça. Si vous voulez comprendre la famille, il faut regarder Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Donc si je veux comprendre la famille, il faut que je regarde ce qui est parfait, à savoir Dieu. La famille en est dérivée. Et qu'est-ce qu'on voit en Dieu ? Eh bien, ce que l'on voit, c'est une relation de stricte égalité entre les personnes. C'est une unité parfaite avec le respect infini de ce que sont les différentes personnes. L'amour en Dieu établit la communion et l'unité parfaite et en même temps respecte le mystère, les propriétés de chacun. Et c'est important qu'il soit trois d'ailleurs, parce que quand on n'est que deux, le risque, c'est l'égoïsme à deux. À trois, on passe de du je et du tu au nous, on passe à la communauté. Saint Thomas va ajouter quelque chose à Saint Augustin. Il va dire que la monogamie, l'indissolubilité du mariage, c'est parce que un enfant a besoin d'avoir un seul principe éducateur. Je vous renvoie à ce que je disais il y a quelques minutes. Hein, l'enfant qui sait aller mettre une épaisseur de papier à cigarette, voire un peu plus, entre son père et sa mère. On sait ce qu'il faut demander à l'un, hein, surtout avec l'adolescence. Ça, enfin, non, mais de toute façon, ça vient vite maintenant. On sait ce qu'il faut aller demander à l'un et à l'autre. Et est-ce qu'on a toujours le réflexe de dire, mais est-ce que tu as déjà demandé à ton père et à ta mère? Et qu'est-ce qui t'a répondu? Est-ce que je vais d'abord me mettre dans cette attitude-là, de dire, nous sommes un seul principe éducateur. Je reviens à ce que je disais sur l'émerveillement, sur la création. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les crée dans une pleine égalité et en même temps dans des différences physiologiques, psychologiques réelles. L'homme et la femme sont ensemble, image de Dieu, dans une absolue égalité et dignité. Et la différence sexuée, elle est bonne et il faut enseigner cette égalité, cette différence sexuée. Parce que c'est elle qui permettra à l'un et à l'autre de comprendre qui il est. Je me souviens de ces deux enfants qui avaient tout compris. Antoine a 10 ans, Sophie a 6 ans, et le petit Paul a quelques mois. Le papa est en train de tondre. Paul dort. Antoine dit à Sophie, « Je comprends pas comment il fait pour dormir dans tout ce boucan. » Et Sophie lui dit, « Moi non plus, je comprends pas. Mais remarque, toi, t'es un garçon. Moi, je suis une fille. On est différents. C'est peut-être parce qu'on est différents que lui, il est capable de dormir. » Et nous, non, quand ne papa-t-on. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? En fait, 6 ans, hein, elle avait compris qu'être garçon, être fille, c'était être différent. Et que cela nous permettait de nous saisir, non pas comme en miroir, mais dans l'altérité. Une différence sexuée bien comprise me permet de découvrir qui je suis. Et c'est là que dans le mariage, cela nous permettra de former une communion d'amour, signe réel de celle qui existe en deux. Au moment de la création, l'homme et la femme sont pleinement porteurs de l'image de Dieu. Ils sont vraiment des personnes et sont donc capables d'exister en communion. Être une personne, découvrir une personne dans l'autre, c'est donner toute sa place à l'image de Dieu qui est en elle. Est-ce que c'est comme ça qu'on se regarde dans un couple, dans une famille? Le couple, dit Jean-Paul II, se constitue à travers les paroles du consentement matrimonial. Ces paroles, elles définissent ce qui constitue le bien commun de la famille. L'amour, la fidélité, le respect, la durée de l'union jusqu'à la mort, chaque jour. Le bien de tous les deux, dit Jean-Paul II, qui est en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien des enfants. Cela veut dire que être éducateur, c'est transmettre à ses enfants, parce qu'on le vit chaque jour, l'amour, la fidélité, le respect, la durée de l'union jusqu'à la mort tous les jours de la vie. Et cela se constitue par une parole. Je trouve ça extraordinaire. Dire, le jour où vous êtes marié, le jour où j'ai promis de donner ma vie, c'est une parole qui a constitué l'ensemble du reste de ma vie. C'est une parole. Le poids de la parole dans notre vie. Faire découvrir à ses enfants le poids de la parole, c'est vivre de cette parole qui n'a pas été en l'air. Ce jour-là, je me donne et je te reçois. Ce jour-là, une parole vous a constitué couple. Ce jour-là, une parole a transformé vos deux vies pour les lier à tout jamais. Vous voyez bien l'importance d'une bonne parole à l'intérieur d'une famille. Toujours parler en bien. Toujours permettre une vraie circulation de la parole. Combien d'enfants ont eu l'impression qu'un tel ou un tel était préféré à eux et n'ont jamais osé le dire parce que la parole qui circulait n'était pas suffisamment libre. Ils ont eu peur de parler. Combien de jeunes peuvent me dire, de toute façon, à la maison, on ne parle que d'impôts ou d'argent. Aujourd'hui, on parle de gilets jaunes. Mais, parce que c'est un vrai problème. Mais comment est-ce que nous donnons une place réelle aux problèmes de société dans nos conversations de famille? Mais à chacun des enfants, à chacun des conjoints, de pouvoir se dire qu'une parole libre circule entre nous. Parce que la parole libre qui circulera entre nous nous apprendra à bien parler aux autres. L'autre jour, j'étais en route, ce week-end, j'étais dans les Alpes et voilà, j'ai été arrêté à plusieurs reprises à des barrages de gilets jaunes, et c'était extraordinaire de pouvoir prendre le temps simplement d'échanger une parole, écouter, apprendre à partager. Je me souviens qu'en Haïti, c'était la même chose, on voyageait alors beaucoup en Haïti pour pouvoir passer dans la foule, on klaxonne. Non. Baissez votre vitre et demandez aux personnes, est-ce que je peux passer? Ça s'apprend en famille, hein, ça. Et parce qu'on sait bien que la parole qui a été changée un jour, eh bien, il va falloir que je la mette en pratique. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont des paroles que je mets en pratique. C'est la valeur de l'exemple. Au tout début, on apprend à l'enfant à faire confiance. Puis, on lui montre la valeur de l'exemple. Puis, on lui apprend, parce qu'il s'est structuré, à poser des choix libres. Mais la clé de tout, c'est la parole. Nous sommes une religion du verbe incarné. Une parole qui produit du fruit. Dimanche, ce sera l'évangile de la visitation. C'est extraordinaire quand vous mettez les... Comment est-ce que la Vierge Marie a su que la parole de l'ange, c'était un truc vrai et non pas le fruit de son imaginaire? Comment est-ce qu'elle l'a su? Grâce à un échange de paroles. Elle voit Élisabeth, elle salue Élisabeth, et tout à coup Élisabeth lui dit « Heureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit. » Marie sait que ce qui lui a été dit vient de Dieu. L'importance de la parole dans nos familles. Je me souviens d'un jeune à qui j'ai été donné l'extrême onction. Il avait 35 ans, il mourait du sida. Et pour faire plaisir à une de ses cousines, il avait accepté de recevoir un curé. Donc le curé, c'était moi. Et on discute un petit peu, et il me dit, voilà, on parle de Dieu, il reçoit le sacrement du pardon, le sacrement des malades, et puis après je prends un petit temps avec lui. Et puis je lui dis, bon ben voilà, enfin... Vous avez rencontré le Seigneur est venu à votre rencontre. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de votre côté à donner ou à pardonner? Et il me dit en pleurant, papa ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Son père était présent, hein. Enfin il était présent, il était dans le couloir à ce moment-là, mais son père était présent au chevet de son fils tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a une parole qui n'avait pas été comprise. Et vous voyez, je crois que pour être de bons éducateurs, si nous voulons être des éducateurs chrétiens, en fait, il faut qu'on ait une vraie parole, une parole de vérité, une parole qui élève, une parole qui tourne vers Dieu, une parole qui dit, mais en acte, nos gestes sont des paroles, qui disent l'amour, la fidélité, le respect, la durée de l'union jusqu'à la mort. Ensuite, en étant parent, eh bien, nous introduisons nos enfants dans une filiation. Un enfant est introduit forcément dans une histoire, une culture, une filiation. Et ce sont des choses particulièrement importantes dans notre monde. Parce que ces dimensions tendent à s'atrophier alors qu'elles sont structurantes. Comment savoir d'où je viens? Comment apprendre qui je suis? Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez. Qu'est-ce qui fait le père? C'est la mère. C'est une mère qui dit à son mari, voici ton fils, voici ta fille, tu peux le reconnaître comme tel. Et que fait le père à ce moment-là? Alors aujourd'hui on peut faire différemment, mais je ne suis pas très pour. C'est le père qui va déclarer l'enfant, parce que ainsi il reconnaît cet enfant comme sien. on sait qui est la mère. Le père devient père dans un acte de confiance, parce que sa femme lui dit « Tu peux le reconnaître comme ton enfant ». Et le premier acte du père, c'est un acte de confiance dans une parole qui lui est dite. Voilà ce qui structure une famille. Voilà ce qui structure l'éducation qu'on va donner. Et le père va faire quoi ? Eh bien, il va expliquer à son enfant que non, c'est lui le mari. Qu'il doit aimer sa maman, mais comme une maman. Pas comme une nourrice. Pas comme, pour un garçon, pas comme sa femme, non. C'est lui le mari, c'est lui le papa. Inscrire l'enfant dans une filiation, dans une histoire. Mais c'est capital. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'inscrire dans une histoire. Je le disais tout à l'heure, tout vient tout de suite. Est-ce que nous nous déployons dans le temps ? Est-ce que nous laissons à un enfant, à un mari, à une épouse, le temps de se développer ? Et ça, cela implique de poser un regard qui est, je crois, le regard de Dieu sur l'enfant, sur son mari, sur sa femme, sur tous ceux sur lesquels on a une charge d'âme. Vous savez, hein, si pour s'épouser, il faut être confirmé, c'est parce qu'on a la charge d'âme de son mari, hein, de sa femme, et la charge d'âme des enfants. Ben oui, c'est une âme qui se confie à nous, qui nous est confiée. Et dans la Bible, il y a ces très belles paroles. Le Seigneur Dieu m'adressa cette parole, avant même de t'avoir formé dans le ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai mis à part. Et le psalmiste, c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Mon âme, tu la connais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, quand un enfant... Moi, j'aime beaucoup regarder un tout petit enfant. J'ai été prendre trois... Non, il y avait beaucoup plus que ça, mais chez Henri, là, voilà, avant, pour ne pas garder l'estomac trop vide, et il y avait une petite Clotilde de 2-3 mois. Et elle vous regarde avec des yeux comme ça, énormes, et elle vous fixe comme si elle vous disait « Mais dis-moi qui je suis ». Et alors, en général, devant le berceau, on dit bah, « Il a les yeux de sa mère, les oreilles de son père ». Et puis, petit à petit, on est tenté de façonner l'enfant en fonction de ce qu'on aime. Oh, pour son bien. Mais il faudrait qu'à chaque fois, on se rappelle ces paroles du psalmiste que je viens de vous lire, ou du prophète Jérémie, et de se rappeler que c'est Dieu, et Dieu seul, qui connaît le fond de cette âme. En fait, ce qu'il faut qu'on révèle à l'enfant, ce qu'on révèle à son mari, à sa femme, pour être de bons éducateurs, c'est qui ils sont aux yeux de Dieu. Alors parfois, c'est un peu décapant. Parce que votre enfant va vouloir rentrer chez les Dominicains. Bon, bah oui. Bah, faut rendre grâce. Puis il va découvrir les Jésuites, il va rentrer chez les Jésuites. Et là, vous exulterez. Faire découvrir à un enfant, à son mari, à sa femme, que Dieu lui veut du bien. Que Dieu veut son merveille, veut son bonheur. Que Dieu le regarde en lui disant « C'est merveilleux que tu existes. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons faire découvrir à l'enfant d'abord qu'il peut avoir confiance en Dieu et qu'ainsi ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bonheur. Dieu nous donne gratuitement d'être ses enfants. C'est pas un truc qu'on a gagné, hein. C'est pas parce qu'on était bon. Dieu nous donne d'être gratuitement Dieu nous donne d'être ses enfants. Et après, Dieu nous dit, eh bien, si tu veux grandir comme mon enfant, il va falloir acquérir un peu de vertu, beaucoup même. Il y a des tas de choses que je vais te donner qui ne seront pas forcément faciles à acquérir, mais je vais te proposer de les acquérir pour te comporter comme mon enfant. Mais la première chose qu'il faut que tu reçoives, c'est que tu es mon enfant. Nous, malheureusement, on fait souvent un peu l'inverse dans l'éducation. On met la vertu, et il faut de la vertu. Et puis quand l'enfant n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas aussi doué que vous, il n'est pas aussi doué que ses parents, qui sont des gens parfaitement vertueux, quand il n'y arrive pas, eh ben, il se dit « je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu ». Et puis il laisse tomber. Alors que s'il découvre que non, il est aimé, et Dieu le regarde, l'aime infiniment en lui disant « c'est merveilleux que tu existes », maintenant, mon fils, ma fille, il faut que tu répondes à cet amour qui t'est donné. Et pour répondre à cet amour, eh bien, regarde, nous, tes parents, nous voulons nous donner cet amour l'un à l'autre, et cela exige du respect, de la fidélité, une bonne parole, un engagement mutuel, un service mutuel chaque jour. Il faut donc essayer de faire grandir l'enfant sous ce regard de Dieu. Et là, vous allez exercer entre vous, ensemble, eh bien, le sommet du baptême. Parce que dans une perspective chrétienne, on essaye d'être parent de façon chrétienne, eh bien, quand on est baptisé, on est prêtre, prophète et roi. Je crois que ce sont des clés extraordinaires pour une famille, pour des parents. Être roi dans un seul principe éducateur. Être roi, ce n'est pas être autocrate. Ce n'est pas être tyran. Être roi, c'est saisir le but à atteindre et donner aux uns et aux autres des moyens pour l'atteindre. Être roi dans le baptême comme éducateur, c'est saisir que notre destinée, c'est la vie éternelle. Essayez ça la prochaine fois que vous prendrez l'avion. On vous demandera, où voulez-vous aller ? Quelle est votre destination ? Et vous répondez, le ciel. Premier, l'effet est garanti. Mais sérieusement, est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit vraiment ? Je veux dire, qu'on se dise, on va essayer de discerner ensemble comme couple que notre destinée, la destinée de notre enfant, c'est d'être enfant de Dieu, c'est d'arriver au ciel. Et c'est très concret. Vous savez, pour vous qui vous êtes mariés, pardon pour les autres, si vous êtes mariés à l'église, vous avez répondu à un truc extraordinaire. C'est une question. De toute façon, ce jour-là, vous répondez oui à tout. Et il y a une question extraordinaire qui est, acceptez-vous les enfants que Dieu vous donne ? Et vous engagez-vous à les éduquer selon la loi de l'Évangile ? Là, vous dites oui. Non, mais vous vous rendez compte ? Ce que vous avez dit, c'est que vous alliez élever vos enfants selon la loi de l'Évangile. Vous voulez que je vous le rappelle, la loi de l'Évangile ? Aimer comme Dieu aime. C'est les béatitudes, hein. Vous prenez les béatitudes. Aimer comme Dieu aime. Pardonner comme Dieu pardonne. Venir en aide aux faibles et aux pauvres. Et les événements d'aujourd'hui nous le disent. Combien de personnes ne peuvent plus vivre ? Pas loin de chez nous, hein ? Vivre, éduquer selon la loi de l'Évangile, c'est vous réjouir le jour. J'ai un fils d'ami qui a fait ça un jour. Il avait compris que son père avait une carte bancaire, enfin voilà. Il a offert, il a réuni un paquet d'enfants et il a offert un goûter monstrueux. Un paquet d'enfants, c'était sur une station de ski. Il a pris la carte de son père et puis il a payé à 25 enfants sur une station de ski le goûter avec les boissons. C'est quoi la première réaction ? Un peu tendue quand même. Oui, mais papa, Jésus, il nous dit d'aimer les gens. Bah oui. Éduquer selon la loi de l'Évangile, c'est pas éduquer selon l'imprudence. Mais c'est éduquer sur le pardon, la confiance, le don de soi, etc., etc. Être roi, montrer le but et s'ordonner tous ensemble vers le but. Pas de l'extérieur en disant « toi, tu vas vers le but ». Non, c'est ensemble. C'est la véritable autorité. Avoir trouvé le bien commun, l'avoir identifié et se mettre à son service. Et le bien commun, c'est Dieu. Deuxième dimension du sacerdoce baptismal, c'est le prêtre. Ah, être prêtre. Être prêtre dans une famille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être le prêtre dans la Bible, c'est celui qui intercède. C'est celui qui rétablit le lien entre Dieu et l'homme. C'est celui qui prône le pardon. C'est celui qui célèbre. Nos familles sont-elles de vraies églises ? Des églises domestiques dans lesquelles on célèbre, on prie, on s'aime, on se vient en aide. Être prêtre, c'est dans une famille se rappeler de tous les grands moments de la vie d'un enfant et des siens. C'est fêter les anniversaires, oui. Ça peut être de fêter aussi l'anniversaire du baptême, de la communion. Des moments importants de la vie. C'est découvrir que tout peut être occasion de célébration paraliturgique. La prière en famille est un moment important. Et il faut que ce soit joyeux aussi. On peut fêter une réussite, pas forcément scolaire, mais il y a tellement de petites réussites pour dire qu'on se réjouit de le mettre sous le regard de Dieu. C'est la place du pardon aussi. Quelle place pour le pardon dans nos familles ? Être capable de demander pardon. Être capable de pardonner. Être capable de dire devant ses enfants « Oh, on va avoir une décision importante à prendre, alors du coup, on va aller ensemble à la messe demain. » C'est bête, hein ? Peut-être pas tant que ça, quand même. Se placer ensemble sous l'écoute d'une même parole. Recevoir ensemble le même sacrement qui nous fait un, l'Eucharistie, pour pouvoir prendre une décision ensemble. Être prêtre, dire à son enfant, se dire l'un à l'autre combien Dieu est proche. Et puis, être prophète, troisième dimension, c'est ne jamais s'installer. C'est accepter de lire ensemble la parole de Dieu qui va nous inciter à aller un petit peu plus loin chaque jour. La parole de Dieu n'arrête pas de nous faire sortir de nous-mêmes. Je vous évoquais cet épisode de la visitation, c'est extraordinaire. L'ange qui dit à Marie, Élisabeth est enceinte. Et Marie comprend qu'il faut qu'elle y aille. Elle n'y va pas pour l'aider. Non, parce que si elle allait pour l'aider, elle serait restée juste après la naissance. Parce qu'en général, moi ce que j'ai compris, c'est qu'on appelait les mamans après la naissance pour donner un coup de main. Et Marie, elle part juste avant la naissance. Alors vous me direz, oui, mais elle n'a jamais été maman, donc c'est pour ça. Non, c'est qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui l'envoie, qui la sort d'elle-même, et qui lui dit, il faut que tu ailles voir Élisabeth. Tu ne sais pas pourquoi, mais il faut que tu y ailles. Et c'est extraordinaire, parce que Marie, elle y va. Marie, elle y va, elle sort d'elle-même, et Élisabeth dit à Marie pourquoi elle peut être heureuse. C'est extraordinaire, c'est Élisabeth qui lui dit, heureuse celle qui a cru. Tu peux être heureuse, Marie, parce que tu as fait tienne la parole du Seigneur. Et cela te met dans le bonheur. Et voyez comment, eh bien, Élisabeth éduque un tout petit peu la Vierge Marie. Alors, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais je redonne deux, trois choses. D'abord, garder, malgré les contraintes de la vie moderne, le dimanche comme jour de repos, de prière, de vie familiale. C'est dire à ses enfants, c'est dire les uns aux autres, on sait s'arrêter pour ce qui est essentiel, Dieu et la famille. Toutes ces rencontres familiales de Noël, de Pâques, les multiples occasions de célébrer, cela lutte contre l'individualisme. La famille doit former ses membres à la communion et à l'apostolat, devenir des disciples missionnaires. Faire découvrir les liens entre l'amour, la vie, la fécondité et les vertus. Éducation à la vie théologale, de foi, d'espérance et de charité, ce qui suppose une vie nourrie par les sacrements. Si vous ne recevez pas le sacrement de la réconciliation, c'est pas la peine de demander à vos enfants d'y aller. Enfin, si, mais demandez-leur d'y aller, mais vivez-le. Le lieu de l'appropriation de la vérité, être vrai, de la bonté, de la paix, de la justice, des vertus, la prudence, la tempérance, la force, la justice, le dialogue, la patience, le pardon mutuel. Qu'est-ce que ça fait ? Cela nous lie entre nous, cela nous rend attentifs. Le développement de ces vertus demande un milieu éducatif sain, coloré par l'amour authentique, la confiance, la tendresse, le respect, l'ouverture aux autres. Il s'agit donc d'éduquer aux valeurs de la vie et de l'amour. Et je voudrais vous dire combien, si l'on vit ces dimensions, on développera de façon invisible, mais par osmose, une société aux solidarités fondamentales. On aura appris à être attentif aux besoins les uns des autres. On aura appris à être serviteurs les uns des autres. Je verrai un besoin, j'essaierai d'y répondre. Et la famille devient alors le lieu de la joie, parce qu'il n'y a plus d'individualisme ni de dispersion. Et donc, je termine. La famille, c'est le Concile qui dit cela, la famille est alors une école d'enrichissement humain, un lieu de plusieurs générations, de rencontres de plusieurs générations qui s'aident mutuellement à acquérir une sagesse plus étendue et à harmoniser les droits des personnes avec les autres exigences de la vie sociale.